L'IVG, interruption volontaire de grossesse ou avortement, est un droit inscrit dans la loi. Entre tabou et jugement moral, il est déjà difficile en temps normal d'y avoir recours, à moins d'être entouré et soutenu. Les délais légaux sont les suivants. Jusqu'à 12 semaines de grossesse pour une IVG par aspiration qui se déroule en hôpital sous anesthésie locale ou générale. Et jusqu'à 5 semaines de grossesse pour une IVG médicamenteuse qui se pratique sans anesthésie, chez soi ou à l'hôpital. Outre les délais qui peuvent être contraignants, d'autres paramètres sont vécus comme compliqués selon les situations, pour les personnes mineures par exemple. On imagine que le confinement rend difficile l'accès à l'avortement. Alors que la députée socialiste Laurence Rossignol avait recommandé une prolongation des délais d'intervention le temps du confinement, le gouvernement avait refusé la proposition pour finalement annoncer le 15 avril un allongement du délai de réalisation de l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines. Pour en savoir plus sur la situation du recours à l'IVG en temps de confinement, nous avons questionné Aline, conseillère conjugale et familiale au planning familial du Pas-de-Calais, association féministe qui accueille et échange sur les questions de sexualité, de contraception, d'IVG, de violence, de plaisir.
Mes missions au sein du planning familial 62 actuellement sont les missions de conseillère conjugale et familiale et chargée de mission. Donc, conseillère conjugale et familiale, c'est au planning 62, ça consiste en l'accueil des personnes qui viennent pendant la permanence pour une demande qui concerne toutes les questions de sexualité au sens large. Donc ça peut être une demande de test de grossesse, une demande de contraception d'urgence, ça peut être une demande d'IVG, une demande concernant des violences sexuelles ou autres, une demande concernant des questions autour de l'orientation sexuelle, autour de l'identité de genre, autour d'un dépistage, des risques éventuellement pris, des questions autour du désir, du plaisir. On essaye d'aborder les questions de sexualité, pas seulement sous l'angle du risque, mais sous l'angle positif, constructif, sous l'angle du plaisir. Voilà, donc c'est ça le métier de conseillère actuellement au planning familial 62. C'est dans l'accueil et aussi dans le fait de rencontrer les gens à l'extérieur, dans des actions collectives, des actions de sensibilisation, d'information, de formation, avec des jeunes, des moins jeunes, en milieu scolaire, non scolaire, dans des cadres formels ou non formels. On est très attaché aux principes et à la dynamique d'éducation populaire. Donc, rencontrer les gens et transmettre un savoir, échanger sur les savoirs, c'est aussi être capable d'échanger du savoir dans des contextes pas forcément institutionnel, des contextes, ça peut être un contexte festif, ça peut être, c'est assez varié en fait, ça peut être un stand, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans une classe, mais une classe, on essaye de mettre en place plutôt une dynamique pas descendante, plutôt horizontale sur les échanges des connaissances, parce qu'on part du principe selon lequel tout le monde a des connaissances, tout le monde a des connaissances, des savoirs, des expériences dont on peut toutes et tous faire profiter aux autres, et c'est intéressant d'échanger autour de ça. Voilà. Donc ça, c'est le travail de conseillère conjugale et familiale au planning 62. Ensuite, on est 3 salariés actifs actuellement à être chargés de mission également. Ça veut dire qu'on s'occupe de mettre en place des projets propres aux questions du planning. Hein, donc ça va être... Ça va être des demandes de subventions pour aller trouver de l'argent pour pouvoir mettre en place ces projets justement sur tout le territoire du Pas-de-Calais, pouvoir aller rencontrer les gens et leur permettre aussi de venir vers nous, que ce soit à l'extérieur des locaux ou à l'intérieur des locaux. Voilà.
Comment est-ce que vous travaillez au planning familial pendant le confinement ? Est-ce qu'on peut toujours vous contacter pour les raisons habituelles ?
Au planning, on s'est organisé pour le confinement, en fait. Donc depuis le, en fait, on a démarré le 16 mars, hein, le lundi 16 mars dernier, avec des permanences à distance, donc permanences téléphoniques. On accueille plusieurs places. On est un établissement d'information et de consultation, et de conseil familial. Donc on n'est pas un centre de planification. On ne peut pas faire d'accueil médical. Donc nos missions sont essentiellement concentré autour de l'information, de la sensibilisation et de la motivation aussi, éventuellement de création de groupes militants autour des questions de sexualité au sens large. Donc en tant que ICCF, on a pu mettre en place une permanence à distance par téléphone pour permettre encore aux personnes de nous contacter, poser toutes leurs questions.
Parmi les raisons pour lesquelles des personnes peuvent vous contacter ou venir vous voir, il y a la demande d'information et d'accompagnement pour l'accès à une contraception et à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse ou avortement.
C'est inscrit dans la loi française actuellement. Les questions d'IVG notamment sont des questions d'urgence. L'IVG, c'est un soin urgent, donc on considère que c'est important de maintenir les services qui font des IVG. Et donc, nous, on continue d'informer sur toutes les questions que nous posent les personnes, sur les questions de sexualité. Mais les urgences vont évidemment concerner les IVG, les violences et les contraceptions d'urgence aussi, éventuellement. Alors, contraception au sens large, en fait, hein, pas uniquement les contraceptions d'urgence, parce que forcément, si on n'a pas une contraception régulière, si on n'a pas la possibilité de renouveler sa contraception, une pilule, un implant, un stérilet ou autre, on a beaucoup plus de chances de risque d'avoir une grossesse non voulue. Donc voilà, c'est aussi des questions qui sont assez urgentes, et c'est pour ça que on peut toujours nous contacter pour les raisons habituelles. Maintenant, on ne va pas pouvoir délivrer de préservatifs puisque ça se passe au téléphone. Voilà.
Pendant le confinement, est-ce que vous observez, toi et tes collègues, une différence dans les demandes par rapport à ça? Et à ton avis, pourquoi?
Depuis le début du confinement, on a en effet observé une différence, clairement une baisse hein, de contacts, d'appels concernant, une baisse globale hein, des sollicitations venant de l'extérieur. Et puis du coup, une baisse de sollicitations concernant la contraception et l'IVG. Pourquoi nous on pense qu'il y a une baisse, on pense que les femmes, enfin, elles nous le disent aussi, hein, elles craignent d'aller à l'hôpital parce que c'est là où elles vont être peut-être potentiellement plus exposées au virus. Et donc, elles n'ont pas envie ni de contracter, ni d'être porteuse saine pour contaminer quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour le coup La communication autour de ça a plutôt bien marché, je trouve, autour de la question de la contamination. Sauf que du coup, pour ces questions qui sont des questions urgentes, donc l'accès à l'IVG, l'accès à la contraception également, on constate une baisse. Alors, on pense qu'il y a une crainte d'aller à l'hôpital et c'est confirmé par les personnes qui nous le disent, hein, clairement. Mais il y a également aussi le sentiment du fait de moins d'importance, en fait. Comme si les questions propres aux femmes étaient... Mais de toute façon, c'est quelque chose aussi qui est quand même un peu dans une culture ambiante. C'est-à-dire que on va peut-être considérer que les questions de procréation, de contraception, d'IVG, ça va être moins important que lutter contre la propagation du virus. Or, c'est pas ni plus ni moins important, c'est tout aussi important. Et nous, on insiste auprès des personnes pour leur dire que leur vie, leur choix, leur avenir, c'est très important, c'est tout aussi important que le fait de se protéger d'un virus et de protéger les autres, évidemment, ça c'est très important. Mais une grossesse non désirée, ça a des impacts sur toute une vie.
Peux-tu nous parler de pourquoi le confinement rend plus difficile l'accès à la contraception et à l'IVG? Et d'après toi, est-ce que tu penses que pendant le confinement, il pourrait y en avoir plus des demandes de contraception ou d'IVG?
Alors, pourquoi ce confinement il rend plus difficile l'accès à la contraception ou à l'IVG? Parce que on peut éventuellement reléguer cette problématique individuelle, bon, qui est quand même une problématique collective et politique, hein, mais on peut éventuellement, pendant le confinement, constater qu'il y a des personnes qui vont reléguer ça au plan secondaire. Voilà, c'est moins important, c'est pas l'urgence par rapport à l'urgence sanitaire qui se déroule actuellement, sauf que en fait derrière cette urgence sanitaire du Covid, on va découvrir une autre urgence sanitaire derrière qui sera effectivement celle de tous les sujets de santé qui n'auront pas été traités pendant ce confinement. Voilà, donc ça, on verra hein, sûrement au déconfinement des effets boomerang qui auront sûrement un impact pas très très joyeux, j'espère le moins possible, mais faut pas se faire d'illusions. Ensuite, pourquoi? Eh ben, parce que il y a aussi, voilà, ce confinement, il nous amène à devoir signer les attestations pour sortir. On est quand même beaucoup beaucoup plus contrôlé pendant nos sorties actuellement, et donc ça peut être aussi très intimidant. On a peur de passer par des humiliations en présentant une attestation indiquant que on va à des rendez-vous. Alors, il n'est pas indiqué que c'est pour une IVG hein, sur l'attestation, sauf que voilà, c'est indiqué soins ne pouvant pas être différés, etc., etc. Donc, c'est des soins urgents qui peuvent effectivement pas être reportés après le confinement, parce qu'après, on dépasse les délais légaux en France. Pour rappel, les délais légaux en France hein, pour une IVG, c'est 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorrhée pour une aspiration et pour une IVG médicamenteuse, c'est 5 semaines de grossesse ou 7 semaines de grossesse quand ça se fait dans un établissement qui, enfin, si ça se fait dans des établissements médicaux, en fait, hôpital notamment. Voilà. Mais du coup, voilà, il y a la peur d'être contrôlé, la peur d'être humilié éventuellement par une personne qui va vous contrôler et puis vous dire bah oui, c'est quoi votre soin urgent? Alors que là, on le rappelle, hein, ça c'est important, c'est du secret médical. Il y a aucune raison de dire pourquoi j'ai un rendez-vous médical là ou là. On a eu des personnes qui se sont faites refouler sur la route alors qu'elles allaient chercher des serviettes hygiéniques. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était pas des achats de première nécessité. Donc, pour l'IVG, on peut s'attendre à des réactions assez fortes, hein, assez fortes, et puis teintées d'idéologie. C'est-à-dire que ça va être le contrôle, il est fait par des humaines et des humains avec leurs propres idéologies. Ensuite, eh ben, il y a aussi pourquoi l'accès est éventuellement plus difficile à réduire, c'est qu'en fait, dans certains secteurs, donc là, nous, dans le Pas-de-Calais, pour information, tous les centres de planification fonctionnent et tous les centres IVG fonctionnent également. Les IVG médicamenteuses se font, les IVG par aspiration se font également, et de leurs propres mots, on sait aussi qu'il y a actuellement moins de demandes. Donc ça, c'est aussi inquiétant. Mais donc actuellement, dans le Pas-de-Calais, ces services, ils fonctionnent, mais on fait peut-être sûrement partie des territoires dans lesquels ça fonctionne pas mal. Dans d'autres secteurs, pardon, plus ruraux, on va être amené à réduire très très fortement des activités de services. Donc même en considérant que l'IVG reste un soin urgent, y a des professionnels de santé qui vont se voir affectés à des services entiers, qui vont être affectés aux malades du coronavirus. Actuellement, nous, dans le Pas-de-Calais, on fait un peu une veille régulière en appelant les centres IVG. On se tient aussi en contact régulier avec les centres de planification du Pas-de-Calais, hein, qui sont gérés par le département. Donc, on sait que, notamment, il y a des adaptations pour les personnes qui pourraient encore passer en IVG médicamenteuse, donc moins de 5 ou 7 semaines de grossesse. Parfois, on peut les inviter à plutôt choisir l'IVG médicamenteuse. Donc ça, même si on comprend tout à fait... alors, j'explique aussi pourquoi on peut inviter des personnes à choisir plutôt l'IVG médicamenteuse actuellement. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'accès à une anesthésie locale ou générale pour une IVG médicamenteuse, alors que pour une aspiration, il y a une anesthésie locale ou générale. Hein. Donc, on va parfois fortement recommander une IVG médicamenteuse pour une personne qui peut encore y accéder pour éviter d'occuper un lit ou du matériel d'anesthésie qui serait nécessaire pour une IVG par aspiration. Les adaptations sont aussi parfois... on conserve les anesthésies générales pour les personnes mineures, c'est-à-dire qu'une personne majeure aurait de ce fait moins possibilité d'accéder à une anesthésie générale pour une aspiration, même si elle le voulait. Voilà. Donc ça, c'est des adaptations qu'on comprend tout à fait au sein des services. Enfin, c'est-à-dire que on comprend que ces services-là aient besoin, vu les moyens qu'ils ont. C'est pas du tout du fait des professionnels et du fait qu'ils aient pas envie de faire des IVG. Hein. C'est que eux, ils sont sur le terrain obligés de s'adapter, vu les moyens qu'on leur donne, qu'ils ont et ces moyens qui s'amenuisent au sein des hôpitaux depuis des années et des années. Donc voilà, ils sont obligés de faire eux-mêmes des adaptations et de ce fait, ça réduit la qualité des soins proposés aux personnes qui souhaiteraient avoir accès à une IVG. Voilà. Ensuite, on arrive au en tout cas une des dernières raisons qu'on a pu identifier, mais c'est aussi les personnes victimes de violences au domicile ou les personnes qui ne souhaitent pas en parler à la maison, les personnes mineures qui sont dans leur famille ou qui vivent avec des personnes qui ne comprendraient pas leur choix d'IVG ou alors qui risqueraient des violences en fait si elles avouaient, enfin si elles disaient à leur famille ou alors conjoint, conjointe, enfant, enfin les personnes avec qui elles vivent, qu'elles sont enceintes et qu'elles souhaitent avorter, on n'est pas toujours bienvenu. On est en contact avec des personnes mineures qui souhaitent attendre la fin du confinement pour vérifier si elles sont bien enceintes et ainsi faire leur IVG, sauf qu'on les prévient aussi du fait qu'à la fin du confinement, on ne sait pas déjà combien de temps ça va durer et ce sera peut-être trop tard pour accéder à une IVG en France. Donc là, on va de ce fait-là dépasser des délais, s'orienter. Si c'est ce choix qui est fait, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers une IVG à l'étranger, mais ça veut dire que c'est des soins coûteux qui ne sont pas remboursés. L'IVG à l'étranger n'est pas remboursé par la sécurité sociale en France. Et donc c'est voilà, on va avoir un effet un peu de mise sous le tapis des réalités actuelles qui vont ressurgir dans quelques semaines, dans quelques mois, qui risquent d'être assez assez compliquées à gérer. Voilà, donc une personne victime de violence ou une personne mineure qui à la maison ne souhaite pas, ne peut pas en parler avec les personnes avec qui elle vit, c'est aussi une des raisons qui rendent l'accès encore plus difficile à la contraception et à l'IVG. En période de confinement. Voilà.
Dans un communiqué du 25 mars, le planning familial 38 explique qu'un amendement visant à allonger de 2 semaines le délai légal de l'IVG, le temps du confinement, a été rejeté par le gouvernement vendredi dernier. Peux-tu nous en dire plus sur ce que les féministes proposent pour l'IVG et les réactions du gouvernement face à cette situation ?
Donc, en termes d'adaptation concernant les questions d'IVG pendant le confinement, il y a une députée du Parti Socialiste, Laurence Rossignol, qui avait demandé à ce que il y ait une prolongation de 2 semaines concernant les délais pour faire une IVG pendant le confinement. Voilà, c'était une demande provisoire pendant le confinement. Ça a été d'abord rejeté. pour proposer ensuite, donc ça s'est passé tout récemment, pour proposer ensuite que soit prolongé le délai pour accéder à une IVG médicamenteuse à domicile. Donc le délai a été allongé à 9 semaines de grossesse. Simplement, tout ça, ça ne concerne que les personnes qui pourront faire leur IVG médicamenteuse à domicile, parce qu'une IVG médicamenteuse à domicile, ça nécessite d'être accompagnée de personnes qui sont au courant de notre démarche, qui sont éventuellement d'accord, ou en tout cas qui sont au moins en soutien, et qui ne vont pas qui vont être bienveillantes avec nous, en fait. Donc, ça veut dire que on est toujours par exemple, la catégorie des oubliés, bah, ça reste les personnes mineures qui sont au domicile avec leurs parents ou leurs tuteurs, tutrices, et qui ne peuvent pas en parler, voilà, et qui peuvent du coup pas du tout être soutenues pour cette IVG médicamenteuse à la maison. Enfin, une IVG médicamenteuse, on saigne, ça provoque comme une fausse couche, en fait, hein, donc... ça peut parfois être douloureux, on a besoin de soutien physique, psychologique parfois. La proposition d'allonger ce délai pour les IVG médicamenteuses à la maison, donc c'était aussi bien pour essayer de donc désengorger les hôpitaux, sauf que ça oublie encore une catégorie de personnes, des catégories de personnes, hein, parce que là je parle des mineurs, mais je parle les personnes qui sont victimes de violences à la maison, non seulement elles sont encore plus surveillées qu'avant, mais en plus, cet accès à l'IVG ne pourra pas être possible. Une aspiration en centre IVG ne pourra pas être possible. Voilà. Donc, la démarche, le combat n'est pas terminé. Puis, il y a eu les propositions aussi de communiqués, de collectifs féministes et autres qui ont dit, nous, on souhaiterait en fait que les délais pour accéder à une IVG soient prolongés d'autant de semaines que durera le confinement. Parce qu'une personne se rend compte de sa grossesse actuellement et qui était déjà enceinte avant le confinement, et ben là, comme on sait pas quand est-ce qu'on va sortir, en fait déjà ça veut dire que potentiellement le délai des 9 semaines qui est actuellement possible, c'est dépassé. Et puis il reste 3 semaines pour pouvoir trouver une place dans un endroit et qui va pouvoir nous faire une aspiration. Il y a eu aussi la possibilité, les propositions qui ont été faites de demander à ce que, à la sortie du confinement, les personnes puissent systématiquement, si elles le souhaitent, faire une interruption médicale de grossesse également. Ce qui est actuellement possible, hein, c'est dans la loi. Les interruptions médicales de grossesse peuvent se faire au-delà de 12 semaines de grossesse, si l'état de santé de la personne enceinte le justifie. C'est dans la loi. Et la proposition temporaire, c'était que, à la sortie du confinement, toutes les personnes qui le souhaitent puissent accéder à ce qu'on appelle une IMG, du coup, une interruption médicale de grossesse. Et l'IVG, c'est un soin urgent. Si vous souhaitez y accéder, c'est important de pouvoir y accéder. Et n'hésitez pas à appeler le planning familial, donc ça c'est le planning familial dans le Pas-de-Calais, en tout cas c'est 03 21 28 43 25. Les centres de planification du département sont également joignables au 03 21 216 216. Et puis les centres IVG sont joignables aussi. Nous, quand on nous appelle pour avoir les contacts des centres IVG, on vous les donne, on vous oriente vers le centre IVG qui sera le plus adapté à vous selon votre situation. Voilà. Pensez à vous, c'est très 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 important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie.